Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel.
L'après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé est une œuvre phare. Elle marque en effet une rupture radicale avec la poésie classique, romantique, parnassienne, dominée par la nécessité d'une anecdote. Si le faune est amoureux de toutes les nymphes, ce poème semble vouloir réunir tous les autres arts, théâtre, peinture, musique. Il entraînera donc à la suite, dans cette course à l'abîme couvre toute nouveauté, vraiment nouvelle, un changement radical dans la musique avec Debussy et son prélude au poème, et lorsque Nijinsky décidera d'inventer une chorégraphie pour les Ballets Russes sur la musique de Debussy et ouvrira une nouvelle ère, celle d'une danse qui certes plonge ses racines dans la tradition, mais s'en détache par un autre rapport à la musique et au corps. Nous vous invitons donc à un nouage à trois, poésie, musique, et danse. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair, leur incarnat léger qui voltige dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve ? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais bois mêmes, prouvent, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs, de la plus chaste, mais l'autre, tout soupir. Dis-tu quel contraste comme brise du jour chaude dans ta toison que non, par l'immobile hélas pâmoison suffoquant de chaleur, le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet. Arrosé d'accord, et le seul vent hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est, à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Ici, nous entrons dans le petit appartement, rue de Rome, à Paris, où Mallarmé reçoit le mardi soir. Le maître est assis dans un fauteuil, un châle écossais sur le dos, sa petite barbiche taillée au cordeau, comme dans un jardin à la française. Il tient à la main une tasse de mocha, et autour de lui, tous, en cette soirée d'hiver, un peu froide, de 1865, attendent quelques paroles du maître, quelques étincelles scintillantes, de son athanor poétique.
Chers amis, ce soir, je vais vous lire...
Il esquissa un petit sourire.
Un nouveau poème, le monologue d'un faune. Tout d'abord...
La surprise est grande. C'est le faune qui parle. Mais qu'a-t-il à raconter ? Et de reprendre la syntaxe complètement alambiquée.
Quelle étude de son ! Et la couleur des mots, musique et peinture par lesquels doit passer ta pensée, tant belle soit-elle, pour être poétique.
Ce qui traduit signifie « ma pensée pour être poétique doit savoir emprunter aux autres arts, à la peinture et à la musique ». Dès le commencement donc, le poème se situe foncièrement au confluent des autres expressions artistiques, musique et peinture, montrant à la fois la différence entre chaque art, mais aussi comment quelque chose d'essentiel et de commun peut passer de l'un à l'autre, le passage de l'un à l'autre étant la traduction d'un langage singulier. Le maître se racla la gorge, plus didactique.
Je rime depuis peu un intermède héroïque dont le héros est un faune. Ce poème renferme une très haute, une très belle idée, mais les vers sont terriblement difficiles à faire, car je le veux absolument scénique, non possible au théâtre, mais exigeant le théâtre.
Stupeur du public devant cette incroyable formule, plaçant le projet hors d'atteinte. Non possible au théâtre, mais exigeant le théâtre, dans les méandres du désastre et de l'impossible. Tout le monde, à la fin de la soirée, dit au revoir au maître, debout, devant la porte. Il accompagne ainsi tous ses amis dans la longue litanie des adieux. Adieu, cher maître, à mardi. Je vous remercie vraiment. Quelle beauté dans un tout petit appartement, tout fait signe. En tournant la tête, il voit son épouse et sa fille dans le reflet du grand miroir qui orne le conduit de la cheminée. Il s'imagine que les nymphes ne soient pas les nymphes, comme l'image dorée et vacillante des deux femmes qu'il aime le plus au monde, mais le reflet d'un reflet. Alors lui vient l'idée d'un faune, plus mystérieux encore, le pousser dans ses limites. Il n'aura pas de sujet alors, pas de quelconque rapport à une réalité extérieure, mais à l'inverse, une réalité close sur elle-même, sans référence à autre chose. La seule référence, à savoir le langage comme trésor des possibles. Poésie purement spéculative, au sens d'un miroir, le miroir au-dessus de la cheminée, qui réfracte. Tacite, sous les fleurs d'étincelles comptées, que je coupais ici les creux roseaux domptés par le talent, quand, sur l'or glauque de lointaines verdures, dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos, et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, ce vol de cygnes, non, de naïades, se sauve ou plonge. Inerte, tout brûle dans leur fauve sans marquer par quel art, ensemble des talas, trop d'hymen souhaités de qui cherche le là. Alors m'éveillerai-je à la ferveur première, droit et seul, sous un flot antique de lumière lisse, et l'un de vous tous pour l'ingénuité. Aujourd'hui, Mallarmé doit présenter son faune au Théâtre Français. Il s'est fait beau, plus chic que jamais, lui qui, pour arrondir les fins de mois, écrit des articles pour des journaux de mode féminine. Il descend les escaliers, elle un fiacre.
Ohé, pour le Théâtre Français !
Lorsqu'il arrive dans une salle de répétition, Coquelin répète une scène du Misanthrope.
Puissiez-vous, pour goûter de vrais contentements l'un pour l'autre, à jamais garder ses sentiments, trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où être homme d'honneur, on est la liberté.
Mallarmé fait un petit signe.
Ah, cher maître, je suis à vous, je vous présente monsieur de Bainville, que vous connaissez peut-être, notre poète du bonheur.
Enchanté.
Il se lança alors dans la lecture de ce monologue.
Composé à Tournon, le monologue d'un faune.
Les deux auditeurs souriaient crispés. Le verdict tomba, comme tout refus, affublé d'une délicatesse un peu feinte, Hippocrite aurait dit Alceste.
Vos vers nous ont plu, mais, se tournant vers Bainville qui acquiesçait, nous n'avons pas trouvé l'anecdote nécessaire que demande le public. Seuls des poètes comme vous peuvent s'y intéresser.
Mallarmé rencontra Claude Debussy à ses fameux mardis. Debussy avait lu dans Les Poètes Maudits Apparition, le poème Apparition, et avait décidé de le mettre en musique. Cette première collaboration inaugura une amitié qui resta vive et permit leurs échanges autour du faune, devenu depuis l'après-midi d'un faune.
Thank you. Le projet d'une version musicale réapparaît lorsque Mallarmé décide d'organiser au Théâtre de l'Œuvre, temple de la modernité au début du siècle, on y jouait les pièces de Maeterlinck, d'Ibsen, avec des décors de Vuillard, une récitation théâtralisée, revenant ainsi à son idée de départ, une réalisation théâtrale. Donc, en 1891, la représentation est annulée. Debussy, qui avait été sollicité pour une musique de scène, commence à préparer une pièce intitulée « Prélude, interlude et paraphrase » pour l'après-midi d'un faune. Il ne restera, au fond, que le prélude. Debussy, lorsqu'il termina son prélude, invita le poète à écouter son œuvre dans une version pour deux pianos. Debussy raconta cette soirée. Mallarmé vint chez moi, l'air fatidique et orné d'un plaid écossais. Après avoir écouté, il resta silencieux un long moment et me dit
« Je ne m'attendais pas à quelque chose de pareil. Cette musique prolonge l'émotion de mon poème et en situe le décor plus pauvrement que la couleur. »
La première du prélude, ce coup-ci pour orchestre, eut lieu le 22 décembre 1894. Debussy invita Mallarmé par un billet. « Cher maître, ai-je besoin de vous dire la joie que j'aurai, si vous voulez bien encourager de votre présence, les arabesques qu'un peut-être coupable orgueil m'a fait croire être dicté par la flûte de votre faune. Votre respectueusement dévoué, Claude Debussy. Mallarmé, emballé, lui répondit après le concert.
Mon cher ami, je sors du concert très ému, la merveille. Votre illustration de l'après-midi d'un faune, qui ne présenterait des dissonances avec mon texte, sinon d'aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière. Avec finesse, avec malaise, avec richesse, je vous prends les mains, admirativement, Debussy. Votre Stéphane Mallarmé.
Ce concert fut une date importante et marqua, on peut le dire, l'avènement de la musique moderne. La libération du vers dans le poème de Mallarmé correspond à la libération du rythme, de la stricte battue et de la tonalité. Brèche dans laquelle s'engouffreront à la suite Stravinsky, Bartok et Schoenberg. 20 ans plus tard, en 1912, un autre génie jettera son dévolu sur la musique de Debussy, exauçant ainsi, en formant une boucle, le vœu d'une représentation théâtrale. Nijinsky écrira sa première chorégraphie pour les ballets russes de Diaghilev. La première eut lieu au Théâtre des Champs-Élysées, le 29 mai 1912, décor et costume de Léon Bakst. Que dire ? Lieu pour la danse, comme avant elle pour la poésie et la musique, d'où le grand magnétisme que le poème de Mallarmé contenait, irradiant son génie d'anneau en anneau, comme se décrit par Platon dans le dialogue Lyon. Il y eut, pour la danse, un avant et un après. Il faut mesurer la surprise, l'effroi, le scandale des spectateurs lorsqu'ils virent ce grand danseur, capable de sauts les plus héroïques, être cloué au sol, ne faisant que des gestes en apparence simples, heurtés, une chorégraphie qui, pour résumer, semble figée, gravée dans un marbre, pétrie dans l'immobilité, recoupant la moiteur de l'ambiance de l'après-midi fantasmée du faune. Alors, par un coup de génie, Nijinsky rejoint le cœur du projet mallarméen, tendre toujours à plus d'abstraction, abstraire la poésie d'un dire facile et de surface pour approcher, dans son retrait, l'absolu exempt de toute référence au réel. Certes, le faune est-il par son costume reconnaissable, mais c'est un faune, si je peux dire, chez Nijinsky, concentré, sublimé, impression de flou et de recréation mentale que renforce le décor quasi-impressionniste de Bakst. Cet effort de simplicité, de lignes claires et parfaitement souligné par la chorégraphie qui isole les motifs du poème, flûte, grappe de raisin, écharpe laissée par la nymphe, signe au milieu d'une musique fauve et miroitée. Eh bien, Mallarmé, je te serre la main, camarade. À l'heure où ce bois d'or et de cendre se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna, c'est parmi toi visité de Vénus sur ta lave posant ses talons ingénus qu'entonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine, ô surchâtiment. Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombe au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sur le sable altéré gisant, et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins. Une fois de plus, remercions Simon pour sa mise en musique de l'émission, en rythme, son interprétation de Mallarmé, et à la prochaine fois pour une émission sur Proust et la lanterne magique.